rien de plus vrai. Mais connais-tu une autre condition que celle du vrai philosophe pour inspirer le mépris du pouvoir ? Je n'en connais point d'autre. D'autre part, le pouvoir doit toujours être confié à ceux qui ne sont pas jaloux de le posséder. Autrement, la rivalité fera naître des disputes entre ceux qui le convoitent. Nous en sommes convenus, oui. Par conséquent, à qui imposeras-tu la garde de l'État, si ce n'est à ceux qui, mieux instruits que tous les autres dans la science de gouverner, ont une vie bien préférable à la vie civile et qui leur offrent d'autres honneurs? C'est à cela qu'il faut s'adresser. Veux-tu maintenant que nous examinions ensemble de quelle manière nous formerons des hommes de ce caractère, et comment nous les ferons passer des ténèbres à la lumière, comme on dit que quelques-uns ont passé des enfers au séjour des dieux? Faut-il demander si je le veux? Ceci n'est pas chose facile, comme au jeu un tour de palais. Il s'agit d'imprimer à l'âme un mouvement qui, du jour ténébreux qui l'environne, l'élève jusqu'à la vraie lumière de l'être, par la route que nous appellerons pour cela la véritable philosophie. Fort bien. Ainsi, il faut chercher quelle est, parmi les sciences, celle qui est propre à produire cet effet. C'est cela. Eh bien, mon cher Glaucon, quelle est la science qui élève l'âme de ce qui naît vers ce qui est? En même temps que je te fais cette question, je me rappelle une chose. N'avons-nous pas dit que nos philosophes devaient, dans la jeunesse, s'exercer au métier des armes? Oui, il faut donc que la science que nous cherchons, outre ce premier avantage, en ait encore un autre. Lequel? Celui de n'être point inutile à des guerriers. Assurément, il le faut, si la chose est possible. N'avons-nous pas déjà admis la gymnastique et la musique dans notre système d'éducation ?